c'est moi, mais dans tout c'est moi.
Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux, les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids. Vous le long des fleuves jaunis, sur les routes aux vieux calvaires, sur les fossés, sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous, dispersez-vous, ralliez-vous. Par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, tournoyés, n'est-ce pas l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir, ô notre funèbre oiseau noir. Mes saints du ciel en haut du chêne, m'a perdu dans le soir charmé. Laissez les fauvettes de mai pour ce qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir, la défaite sans avenir.
ne peut plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs. Moi tombé du chameau. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui avec André Bitton du CRPA. Bonjour André.
Bonjour.
Et nous allons parler aujourd'hui de... Enfin, faire un compte-rendu de la conférence débat qui a eu lieu le 23 mars dernier à l'AGK.
Oui. Alors, tu voulais faire une introduction sur le sujet sur la dame ou...
Alors oui, on peut commencer par une petite séquence qui est donc une critique d'une animatrice de France Culture.
Sur le film de M. Philibert sur l'Adamant.
Ouais, Lucille Como, voilà. Et sur le film L'Adamant de Nicolas Philibert. Donc je vous propose de l'écouter.
Bonsoir Lucille Como.
Et bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous allez nous parler d'un film qui vient de sortir au cinéma sur l'Adamant de Nicolas Philibert.
Oui, le réalisateur français a d'ores et déjà reçu l'Ours d'Or lors de la dernière édition de la Berlinale. Et les critiques que j'ai pu lire sont dithyrambiques sur ce film, premier d'un triptyque sur la psychiatrie française. Je pense en effet que le film, qui mise tout sur l'empathie, a tout pour séduire le public et lui faire du bien sur un sujet difficile. Et je pense que c'est précisément ça le problème. Alors l'Adamant, c'est un centre de jour qui dépend de l'hôpital Saint-Maurice, un lieu d'accueil pour des patients atteints de troubles psychiatriques situé sur une péniche au cœur de Paris. Nicolas Philibert connaît bien ce lieu dont il a suivi le projet, la fondation et la construction, et dans lequel il est plusieurs fois intervenu parmi les autres artistes et personnalités extérieures amenées à travailler sur place. Il y a posé plusieurs mois durant sa caméra pour donner à voir la vie quotidienne à bord, l'ouverture des volets en bois au petit matin, l'affluence à la cafétéria autogérée, les comptes du bar, les ateliers, musique, danse, dessin auxquels assistent les patients, mais surtout... Philibert filme les gens en portrait, de face, laisse advenir leurs paroles, des paroles parfois empêchées, dans des corps aux fonctions compliquées par les diverses pathologies qui les affectent. Il y a une femme très bavarde qui regrette ses amis d'antan, il y a un homme très chic à la voix caverneuse, persuadé d'être issu d'une lignée d'artistes qui va de Van Gogh à Jim Morrison, il y a un jeune homme pétri d'angoisse qui explique comment il associe ses pensées à des objets, ou encore cet homme qui parle de ses voix qui lui intiment de faire des choses et riposte s'il ne les fait pas.
Alors l'idée, ce serait de montrer des gens qu'on ne voit pas d'habitude au cinéma.
Oui, des gueules cassées, hein, comme dit l'un d'entre eux, des sujets qui demandent une attention particulière du filmeur, accepter la digression, le silence, l'incohérence. C'est aussi assez clairement leur rendre justice en les représentant comme des personnes qui créent notamment. L'Adamant est un lieu qui mise beaucoup sur les activités artistiques. De fait, on voit beaucoup les patients dessiner, chanter, écrire, parler de leur création. Il y a là quelque chose d'un peu gênant dans l'association bien vite opérée, que les fous sont des poètes, que leur langue en elle-même vaut poésie, et qu'il y aurait presque quelque chose à protéger de leur folie pour qu'advienne la beauté et la singularité. Dans une séquence première, un des personnages accoudés au bar prévient le filmeur. Tu vas voir, ici il y a plein d'acteurs, ils le savent pas, mais ce sont des très bons acteurs. Se thématise là quelque chose d'une distance possible, en tout cas d'une question éthique sur la position de celui qui filme, mais cette question retombe immédiatement, tant on sent le film fasciné dans le fond par la poésie de ces gens-là. En fait, tout dans ce film est fait pour le confort du spectateur. Jamais bousculé, toujours rassuré par une forme dans le fond hyper conventionnelle, à rebours total de l'extrême singularité et de l'errance psychique des personnes filmées. Ça tient au fait que jamais le film ne s'éloigne de l'Adamant, c'est l'unique lieu et c'est un cadre très strict, celui de ce bateau tout de bois, un magnifique endroit par ailleurs, petite utopie flottante où on sent les encadrants plus proches de bénévoles en milieu associatif que des soignants débordés de l'hôpital public. Déjà là, il y a une forme de hiatus pas très pensé, je trouve, par le film, qui croit sans doute faire œuvre d'humanisme en montrant des non-valides, mais qui les montre dans un cocon qui s'ouvre le temps du film et se referme après lui, laissant les fous bien gardés dans un lieu, dans le fond, pas trop mal pour eux. À coup sûr, le spectateur valide sortira rassuré, les fous sont plutôt sympas, ne sont pas parmi nous, et en plus, ils sont traités avec humanité dans un beau lieu fermé où on leur fait faire de la peinture. Je ne dis pas que c'est le discours qui porte le film sur son sujet, je suis certaine que Philibert, qui s'intéresse depuis des années à la psychiatrie, a une vision plus fine de la chose. Je dis juste que c'est l'impression que donne cette forme documentaire classique et fermée et qui repose sur des structures de pensée humaniste un peu gentillettes, promptes à nier peut-être la complexité d'une situation, en tout cas, qui refuse dans ce film d'examiner ce que c'est qu'être fou dans la société, ce que c'est que de travailler avec eux, puisqu'il fait choix d'en faire des personnages de conte et donc pas des personnages dans la société. C'est d'autant plus étonnant que le film s'achève avec deux déclarations sur l'exception que constitue l'Adamant dans un paysage psychiatrique sinistré, une espèce soudain de mouvement de révolte complètement absent par ailleurs du reste du film, comme une dissonance cognitive. J'attends de voir les deux prochains volets du projet qui peut-être complexifieront les choses.
Attendons. Pour l'instant, donc.
Alors, c'est Lucille Como, émission Affaires critiques du 20 avril. Sur France Culture.
Oui, alors moi personnellement, en tant que militant actif sur ce terrain depuis fort longtemps, je veux dire que je suis très critique par rapport à ce genre de mise en scène de cette espèce de petit monde à part de post-asile d'aliénés dans la ville, très rassurant, puisque en fait, d'abord, ces mondes-là, cela souffre. Enfin, le problème qui est posé, il y a plusieurs questions qui se posent. L'esthétisation de la détresse humaine, l'esthétisation de la folie, transformer les malades mentaux que l'on chronicise en tant que tels, et puis ils sont maintenus dans la chronicité, maintenus dans la folie, sans issue. Et l'exploitation de leur image, de leurs œuvres, au titre de l'art brut, sans même que cela leur rapporte. Bien. Parce que ça ne pose pas problème. Je pense que n'importe qui aurait une pratique artistique et serait exposé sur grand écran ou à la télé ou dans des expositions quelconques, serait amené à réclamer les droits d'auteur. Mais là, par exemple, je prends cet exemple, cette esthétisation pour le bien d'eux, pour faire valoir, etc., soustrait ces acteurs qui en réalité jouent un rôle professionnel du droit du travail. L'Adamant, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit asile d'aliénés, externalisé dans la ville de façon rassurante. Bien, mais ça, on connaît ça depuis la fin du 19e siècle. La communauté thérapeutique agricole de Dun-sur-Auron, c'était ça. On sortait de je ne me rappelle plus quel est le nom de l'hôpital, hein, je crois que c'est en Indre-et-Loire ou dans le Loiret, il me semble que c'est du côté de Bourges. Fin 19e, on a créé une communauté agricole. On sortait les malades pour être travailleurs esclaves, hein, dans les propriétés fermières des alentours, où ils étaient sous le contrôle. Et en même temps au travail, donc ça les rendait utiles et ils sortaient de l'HP. Bien. Là, en quelque sorte, l'utilité est parfaitement artistique, bien. Et l'on maintient dans la chronicité ces gens-là. Alors maintenant, quand les patients, qui sont très chroniques, hein, très dépendants, et dont d'ailleurs, la présentatrice parle de leur corps déformé, mais c'est le corps déformé par les traitements, par l'invalidation de statut, le traitement obligatoire, l'empêchement de l'épanouissement normal, faut savoir que les traitements psychiatriques cassent la motricité, cassent la volonté, et qu'on se trouve dans l'incapacité, par exemple, de faire une gymnastique quotidienne d'entretien, de faire du sport qui permette de s'épanouir. On est à l'inverse de la bonne santé. Et cela s'est valorisé sous l'angle de l'art brut. Ben moi, je trouve ça complètement choquant. D'autant plus que les patients qui sont à l'écran, que l'on voit à l'écran, sont exploités en tant que main d'œuvre qui aurait dû être salariés.
De plus, ça ne leur permet pas de s'habituer à une éventuelle vie en milieu normal.
Évidemment, de toute évidence. Et ça, c'est souligné. Finalement, c'est l'externalisation de l'asile, de l'hôpital psychiatrique, son externalisation sympa, sans même qu'il y ait démarche de réhabilitation, rétablissement, qui permettent de s'adapter à la ville. Alors quand ces gens-là sortent de ce monde-là, là où ils résident, je te prie de croire que s'ils ne sont pas bien entourés, alors les persécutions par le voisinage tombent. Hein. Je te prie de croire. Hein. Bon, donc non, moi je suis... Alors bon, là-dessus, toute réserve gardée. Il est normal qu'il y ait un éventail de possibilités pour des gens qui sont suivis de façon lourde en psychiatrie. C'est tout à fait normal. Mais que l'on n'aille pas, puis surtout sur France Culture, les médias, etc., qu'on n'aille pas nous faire croire que ça, c'est la panacée. Puisque, en plus, on est dans un moment et dans une époque où la psychiatrie publique est en situation de faillite. Deux, la lutte pour les droits des patients a émergé ces dernières années. Et comme par hasard, l'adamant et la publicité là-dessus, ça permet de blackouter cette thématique. Les patients étant des fous, tellement bien, etc., il n'y a pas question de droit.
Oui.
Bon, or, les patients qu'on voit là ont des droits.
Oui.
D'abord des droits de malade. Bon, donc, etc., etc. Donc non, moi, j'ai été contacté là-dessus pour répercuter la présentation de ce film. Et j'ai dit clairement à la personne qui m'avait sollicité de l'adamant, je lui ai écouté, non, je n'en ferai rien. Sachez que nous, la lutte juridico-politique et médiatique qu'on a menée sur le très long cours et qui a été blackoutée par les gens de la psychothérapie institutionnelle, si nous, les uns les autres, on avait été réinternés, incarcérés, butés, neutralisés, etc., etc., comme il en a été question à plusieurs reprises, je pense notamment à Philippe Bernardet ou autres, eh bien, il n'aurait pas bougé. Donc, je ne donnerai pas d'écho à ce film, que je trouve normal que ce soit publié, mais tout cela, c'est parfaitement le rang.
On va passer maintenant à, donc, au compte-rendu de la conférence débat du 23 mars dernier.
Du 23 mars dernier, à laquelle Denis, ici présent, participait, oui. On s'en souvient. Alors, ça a été passionnant. Hein. Et la prochaine, on va le faire le 24 juin sur trois thèmes. Toujours la pérédance professionnalisée. Donc, on aura le 24 juin prochain un exposé par Céline Le Tailleur, hein, bien, qui va venir de sa région Auvergne. Mathieu Bellassène va nous faire un exposé sur l'état de son livre en faveur de l'abolition de la contention et les mobilisations auxquelles il participe. Et pour ma part, en troisième sujet, je vais faire un exposé sur l'histoire des mouvements de personnes psychiatrisées depuis les années 70 et la très difficile émergence des mouvements de patients. Donc, alors, le premier thème était pour le moins intéressant, c'était sur l'empowerment des usagers de la psychiatrie. Donc, l'empouvoirment, le rétablissement, reprise de pouvoir sur soi et reprise, en quelque sorte, affirmation de son pouvoir de citoyenneté, d'intervention sur le sort qui nous est réservé et sur la politique de santé en l'espèce. Donc, la première intervenante était Madame Saphir Desvignes, qui est une jeune doctorante à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, sur cette question où elle fait un sujet de doctorat. Le deuxième intervenant était Mathieu Bellassène sur l'état de son bouquin qui est en cours de rédaction et qui maintenant est terminé. Et la troisième intervenante était la docteure Aurélie Tinland sur le COFOR de Marseille, le centre de formation et rétablissement. Hein. Et franchement, les discussions ont été passionnantes. Hein. Les gens sont sortis de là, vraiment. On se dit, on remet ça. Ça coûte pas spécialement cher, hein, tu vois. Bon. Donc, je lis le compte-rendu sur le premier thème, l'empowerment des usagers de la psychiatrie, qui a soulevé des questions vraiment très intéressantes, puisqu'on est en pleine émergence en France de la problématique des thérapies rétablissement et de l'insertion, réinsertion dans les nouveaux métiers, notamment des personnes usagères de la psychiatrie. Et de la question même qui est favorisée par les pouvoirs publics avec un hiatus entre le discours et les pratiques. Comme d'habitude, en France, on a 9 langues, on a des très beaux colloques, et puis bon, pour le reste, c'est pas ça. Donc, la problématique de l'autonomisation, en quelque sorte, des patients. Donc alors, Madame Saphir David nous présente, d'abord elle se présente en qualité d'ex-usagère de la psychiatrie, en cours de thèse de santé publique sur l'empowerment, ou la reprise de pouvoir sur soi et sur la cité, en quelque sorte, un pouvoir de citoyenneté, des personnes psychiatrisées, des usagers en santé mentale. Alors, ce qui dans le texte est usagers en santé mentale, nous on dit psychiatrisés.
Oui, ou usagers ES ou EES.
Oui, des usagers ES. Oui. Et ex-usagers aussi. Donc, usés. Des usés. Usés et usagers de la psychiatrie. Bon. Puis santé mentale, nous on dit psychiatrie.
Oui.
Donc cette thématique, alors la thématique de l'empowerment des usagers en pleine période de désinstitutionnalisation et d'externalisation des suivis est très valorisée par les institutions hein, maintenant. Mais donc comme d'habitude, il y a une différence et même une fracture, un gap entre les discours officiels et les pratiques. Donc cette thématique est très valorisée par les autorités sanitaires avec une ambiguïté qui la rend attrayante pour les décideurs, les professionnels comme les usagers. Il nous est proposé de traduire ce concept anglo-américain par le néologisme empouvoirment plutôt que par autonomisation ou par pouvoir d'agir. Bon, maintenant, il y a les tenants de la défense de la langue française. On en a pour encore 5 ans à s'empailler avant disparition. Bon. La définition collective de ce concept étant pour une communauté de reprendre un pouvoir qui lui a été supprimé.
Oui.
Ou plus exactement qui ne lui a jamais été accordé. En l'espèce, de prendre ou reprendre un pouvoir sur soi, ce pouvoir étant aussi une capacité d'intervention dans la cité, donc acquérir ou réacquérir une pleine citoyenneté. Parce que bon, ce qu'il faut voir, c'est que le statut même de personne suivie pour trouble, pour maladie mentale en psychiatrie, vous invalide au plan personnel comme au plan de la citoyenneté. Alors ce concept est en date des années 60, il est lié à la base aux revendications de groupes sociaux opprimés, les luttes féministes notamment en Asie du Sud, le mouvement pour les droits civiques des Noirs américains, les mouvements féministes, mouvement pour les droits civiques des Noirs américains, et en Amérique latine, la pédagogie des opprimés. Paulo Freire, pédagogue brésilien, 1921-1997, qui a beaucoup intervenu au niveau des bidonvilles du Brésil. Dans les années 80, ce concept arrive dans le champ psychiatrique par le biais des séropositifs, préfigurant le mouvement officialisé dans les années 1990 du réseau des usagers et ex-usagers et survivants de la psychiatrie formé en 1991. Et cet intitulé, le réseau des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie, date de 1994. C'est le deuxième congrès de l'ENUSP. Donc le contexte américain, puisque c'est à partir des USA que ça part, les USA c'est le meilleur comme le pire.
Oui.
Le contexte américain est celui d'une désinstitutionnalisation accélérée, se traduisant par des fermetures de lits en nombre des institutions psychiatriques. Bien. Ça se traduit aussi par une carcéralisation, hein, mais bon. Voilà. Donc c'est le contexte de la désinstitutionnalisation, et c'est pareil au Canada. L'émergence des mouvements d'usagers très puissants sur un activisme de certains usagers très puissants dans les années 70 accompagne et va de pair avec une processus de désinstitutionnalisation. La France ne connaît de processus de désinstitutionnalisation que très tardivement. La désinstitutionnalisation en tant que telle, il y a plusieurs vagues, c'est la sectorisation premièrement, mais qui ne permet pas la fermeture de lits, hein. Ça, c'est le féodalisme en la matière en France, mais c'est les années 90. C'est là où ça commence à fermer. Enfin, on reviendra dessus. Enfin, on a déjà parlé, mais il faudrait revenir là-dessus plus en détail. Donc, on assiste ces mêmes années 80 à une esthétisation des luttes des minorités, l'antipsychiatrie à la mode. Sur les grands écrans, à une récupération de ces luttes par les classes dominantes, Hollywood, show business, etc. Le modèle néolibéral est celui de l'empowerment individuel, car en fait, et c'est ce que Saphir Devigne développe, il y a plusieurs modèles de cet empowerment. Le modèle initial issu des luttes populaires est un modèle émancipatoire. de l'individu qui s'inscrit dans un collectif. Le modèle néolibéral, ben, c'est l'affirmation individualiste d'une réussite et qui correspond au plus fort. C'est comme d'habitude, les gagnants, les perdants sont culpabilisés d'être tels, et les gagnants en avant, quoi. C'est comme d'habitude. Donc le modèle néolibéral, c'est celui de l'empowerment individuel, une sélection des plus forts, des plus aisés et des plus habiles, des moins atteints et des moins défavorisés. Le schéma très, très américain et que moi j'ai connu, qui aussi, il est capitaliste libéral, mais il est aussi très féodal, finalement. Notion d'activation du patient. On va activer les malades. Ça, on les voit la tête enfarinée, la bouche en cul de poule qui se rapproche de vous. Vous êtes groggy dans votre fauteuil. Nous allons vous activer.
On les active et désactive à loisir.
Oui, c'est ça. Donc le consensus est artificiel sur ce concept. Dans les faits, les pratiques et les idées diffèrent complètement. Donc trois modèles théoriques sont en place. Le modèle radical issu des communautés opprimées, émancipation individuelle et collective, émancipation sociale, le modèle social-libéral, le modèle néolibéral. Alors, le modèle le plus fréquent est celui néolibéral, aussi appelé empowerment individuel, qui est en quelque sorte très valorisé aussi dans les entreprises. C'est la logique de responsabilisation de l'individu en tant que singularité. La traduction concrète étant que les usagers de la psychiatrie n'acquièrent aucun pouvoir, juste des compétences, s'il y a là une absence de rééquilibrage des rapports de force interindividuels et sociaux. Ah ça, moi, je demande à creuser, c'est pas si simple. Parce que bon, j'ai vu un contre-exemple venant des USA là-dessus. Donc, trois niveaux de l'empowerment. Alors, trois modèles théoriques et trois niveaux. Les trois niveaux sont individuels, collectifs, organisationnels. Et d'après Mme Saphir Desvigne, ce qu'elle défend, c'est qu'on défigure ce concept si on ne prend qu'un des trois niveaux. Autrement dit, ce pouvoir d'agir sur soi et sur son environnement, il y a trois niveaux qu'on ne peut pas dissocier, le niveau individuel, le niveau collectif, le niveau organisationnel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une autonomisation intégrée. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Et cela, ce regard, cette analyse, ce concept pris dans sa globalité, s'oppose au modèle biomédical qui donne le pouvoir au corps médical. Parce que finalement, le patient là-dedans, prenant son sort en main, prend son pouvoir et contrevient au modèle biomédical qui affirme le pouvoir médical. Alors que normalement, en déontologie, un médecin et un médecin psychiatre, et moi j'en ai connu, j'ai été suivi par des médecins psychiatres qui étaient très contents que je m'épanouisse, devraient au contraire se satisfaire et être parfaitement contents que son patient ou ses patients s'autonomisent et puissent enfin quitter. Mais bon, c'est pas le moindre. C'est pas un paradoxe, c'est issu de la logique asilaire. La psychiatrie, à la base, est une discipline de contrôle. Donc, on opère un tournant vers ce que nous connaissons en France sous le terme de démocratie sanitaire, avec une logique participative. En l'espèce, il s'agit d'une participation limitée et contrôlée. C'est ce qu'on connaît en France. Une participation, un empowerment, un rétablissement, une réintégration, une intégration limitée et contrôlée. Les représentants des patients ont peu de connaissances sur le système de santé auquel ils participent. Ça, oui, moi je l'ai constaté. Les idées des usagers sont certes accueillies et retenues quand elles concordent avec l'agenda des détenteurs de pouvoir. À défaut, le financement n'est pas accordé. Ah oui, ça, ils en savent quelque chose, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Et à Marseille, ça va mieux qu'ailleurs. Cette question, des représentants des usagers, que décident-ils de la désignation de pair? Autrement dit, dans les instances, là où ça se décide, y a-t-il qui siège en place, en la place, des représentants d'usagers, eux-mêmes usagers et ex-usagers, qui co-décident qui va être désigné? Alors oui, moi j'ai un contre-exemple, c'est que par exemple, dans la Commission nationale d'agrément, siègent des représentants de Français Sous Santé. Par exemple, il y a l'ancien président, il siège. Mais bon... c'est assez compliqué, puisque là, le représentant de France Assurance-Santé, c'est un notable, purement et simplement un notable. Les gens, de toutes les façons, les gens étant notabilisés, ils ont une carrière de notable très intégrée, débouchant sur les arcanes du pouvoir, ça neutralise, hein. Ça neutralise incontestablement, mais bon. Donc en psychiatrie plus qu'ailleurs, une croyance est puissante et tenace selon laquelle les patients, les usagers, les psychiatrisés, les usagers et les usés, ou leurs représentants, eux-mêmes usagers, manquent de fiabilité, de lucidité, de capacité. Il y a une invalidation d'office qui joue à partir du moment où on fait, où on a fait de la psychiatrie.
Oui.
Moi, ça m'a amené à... Désormais, quand je me présente, je dis que j'ai été casé déchet de la société dès l'enfance. Donc, il dit, mais non, mais pourquoi ? Je dis, mais oui, mais oui. Il dit, mais non, enfin, mais je vous en prie. Mais si. J'ai beau dire, voilà. Mais pourtant, je vous dis la vérité.
C'est une vraie expérience, quoi. Ça.
Ouais. Oui. C'est mon expérience expérientielle. Bon. Donc, ce que conclut Mme Devine, qui est tout à fait exact, les usagers et les représentants des usagers, donc des patients, doivent faire leur preuve au niveau de professionnel, à un niveau professionnel, tout en étant continuellement sous invalidation réflexe. Bon, les médecins, alors on déduit une conclusion qui est tout à fait exacte ultérieurement, c'est que les représentants des usagers de la psychiatrie siégeant dans les instances, soit doivent faire leur preuve à un niveau professionnel tout en étant invalidés d'office, bon, vous n'êtes que des malades, ça va, ça suffit, on vous a entendu, c'est terminé, soit siègent en qualité d'incompétents déclarés et de potiches officiels.
Bon. Ah bon, oui, après, il y a toutes les problématiques d'intégration à l'équipe de soins...
L'équipe dirigeante.
Et justement, le rapport à l'équipe dirigeante aussi.
Oui, le rapport au pouvoir, c'est voilà. Le rapport au pouvoir. Donc, les médecins, alors c'est ce que dit Mme Devine, les médecins psychiatres peuvent faire la preuve qu'ils sont incompétents, une compétence de principe leur est accordée, ce qui les maintient dans leur fonction. Marquez, c'est pareil pour les représentants d'usagers, puisque j'ai noté que des représentants d'usagers parfaitement incompétents, ça satisfait tout le monde et on les maintient. Donc, empowerment et transfert de compétences. Et là, on rentre dans le gras. Les pères aidants, alors que pour les médiateurs de santé père, c'est déjà mieux, hein, quand même. Les pères aidants sont embauchés en bas de la hiérarchie institutionnelle,
voilà,
hein, agents hospitaliers, agents administratifs, bon, non titulaires et n'ont pas de possibilité d'évolution de carrière. Ce sont des agents contractuels non titulaires de la fonction publique hospitalière, sauf quelques exceptions, il faut que je demande des précisions à Philippe Maugiron, ce ne sont pas des titulaires, ils ne sont pas titularisables. Il n'y a donc pas de volonté institutionnelle de pratiquer une intégration de pères aidants, soit à un niveau satisfaisant, et moins encore dans la hiérarchie institutionnelle, vers le haut de la hiérarchie institutionnelle, contrairement à ce qui s'est produit aux USA, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse ou en Europe du Nord. Dans les recrutements pour des postes à responsabilité, la phrase « savoir expérientiel bienvenue » disparaît. Or, dans un colloque sur le transfert des compétences, sur le transfert d'advocacy des pays anglo-saxons vers la France, ou même de pays comme l'Italie, organisé avec des fonds européens par Advocacy France en 2000, auquel j'avais assisté, qui était passionnant, hein, c'est ce colloque qui avait motivé Stéphanie Houlet pour s'impliquer là-dedans, hein. On avait eu notamment un exposé d'un ancien patient psychiatrisé d'un état du sud américain, très, très wasp, hein, très occidental, bon, etc. Nous exposant que, bon, lui s'était rétabli vaille que vaille, et finalement, il avait des diplômes, on lui avait confié la responsabilité de co-gérer au niveau de cet état du sud américain, de la co-gestion au niveau d'un état des USA, la politique de santé mentale, et qui s'en débrouillait très bien, et qu'il était parfaitement intégré, en qualité de haut fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il occupait des fonctions très similaires de fonctions qui ont été occupées par des gens de France Assosanté, par Christian Saout, hein, l'ancien président d'Aide, ancien président du CIS, qui était un magistrat administratif. Ouais, donc... et ça, ce qui s'est passé aux USA, ça se passe au Canada. L'AGIDE, l'Association des groupes de défense des personnes psychiatrisées, a des observateurs et c'est financé. C'est c'est complètement financé. Et autres. Au Royaume-Uni aussi, hein, ils cogèrent. Au Royaume-Uni, au Dernier Nouvelle, hein, qui était assez ancienne en ce qui me concerne, hein, mais quand même, c'était une cogestion. Bien. Alors après, en Suisse, ça dépend des cantons. En Europe du Nord, idem. Donc, en tout cas, à retenir que pour l'intégration professionnelle de personnes ayant connu ou connaissant toujours un suivi psychiatrique, d'accord, en bas de tableau, ça va, non titularisable, ça va, contractuel, taillable et corvéable à Bercy, ça va, mais dans le haut de la hiérarchie, non. C'est pas le coup qu'on soit remis en cause. Bon. Alors donc, Madame Desbignes conclut, une renégociation est nécessaire sur cet enjeu de pouvoir. L'alternative, et comme on la connaît bien, hein, c'est l'alternative qu'a connue le GIA, l'alternative étant soit la rupture radicale, on sort du système institutionnel, soit la collaboration. Les pères aidants sont nécessairement dans une position inconfortable, la redistribution du pouvoir ne peut pas être tendre. C'est comme le steak. C'est plutôt de la vache enragée qu'autre chose. Bon, alors, Saphir Desbignes, une phrase intéressante. Certes, ce sont les médecins qui prennent les orientations. Néanmoins, nous sommes à un tournant institutionnel et étatique par des législations promouvant une inclusion des usagers du système de santé. Mais c'est là où on a tout le... Tout l'art politique du ministère de la Santé et des pouvoirs publics par rapport à cette inclusion à marche volontaire organisée par les pouvoirs publics de la représentation des usagers et d'impulser les mouvements d'usagers. Les pouvoirs publics s'en servent depuis un quart de siècle, depuis la fin des années 90, comme un des éléments pour démanteler les lobbies professionnels, les corporations hospitalières.
Ah oui.
Ah ben oui, hein. Ah ben, de toute façon, c'était déclaré dès la fin des années 90. Je me rappelle d'une réunion du fil retrouvé en fin 97, où les clubs de patients qui sont devenus les GEM, nous sommes appelés à remplacer les hôpitaux de jour. Bon. Donc voilà, l'habituel, c'est de la même façon que la revendication anti-asilaire a été récupérée de façon financiariste pour la désinstitutionnalisation. Mais bon, en même temps, c'est une chance. Mais ça ne se joue pas n'importe comment. Mais c'est ainsi que dans la décennie précédente, quand on a dû monter au créneau contre les projets sécuritaires sarkozystes, la FNAPSI est restée de côté, du côté du gouvernement. Et autres. C'est comme ça que ça s'analyse. Donc, représentation des usagers de la psychiatrie dans les instances sanitaires et décisionnaires. Alors, problématique de l'empowerment, hein, oui. Mais collectif. Les patients, enfin individuels et collectifs, les patients doivent-ils se contenter d'un à deux sièges strapontins dans des instances sanitaires à titre consultatif ? Note du rédacteur, c'est toute la question de la représentation des usagers du système de santé, singulièrement en psychiatrie, où dominent des relations de domination de type féodal sur les patients. Ou règne. Bon, enfin, bon. Là-dessus, une répétition. Quel poids peut avoir la voix des usagers de la psychiatrie ? Y a-t-il, et ça c'est une vraie question, elle a raison, Saphir Desbignes, de soulever cette question, y a-t-il des représentants des patients dûment formés afin qu'il soit efficace, dans les instances décisionnaires où sont désignés l'octroi des financements. Il devrait y avoir des représentants des usagers de la psychiatrie dans les instances décisionnaires, mais évidemment ce serait à cette condition que ces représentants soient formés et qu'ils puissent intervenir à bon escient. Note du rédacteur, sur ce point, les pouvoirs publics bloquent, ainsi que le prouvent les abannies subies par le CRPA et nos vives protestations dans la décade 2010. Saphir Desbignes, on demande aux représentants des usagers de la psychiatrie dans les instances sanitaires soit de faire preuve, leur preuve à un niveau de professionnel, soit d'être de préférence en état d'incompétence déclarée. Il y a une nette problématique de défaut de transfert des compétences du groupe social dominant au groupe social dominé. Alors, je note du rédacteur, c'est-à-dire de moi-même, je casse cet adage, la liberté ne se donne pas, elle se conquiert, c'est la même chose pour le pouvoir.
C'est juste.
Saphir Devine nous explique enfin l'intervention, et là on arrive à un point très important, son projet de thèse est très important, son doctorat serait quand même intéressant à développer, donc qu'elle accède à un terrain, qu'elle puisse interviewer des patients. Et là, voilà, elle nous explique enfin l'intervention, qu'elle a subi une invalidation partielle de son projet de thèse, qu'elle a dû réformer, par le comité d'éthique de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, donc par sa direction de recherche. Le comité d'éthique de la PHM a stoppé son étude au niveau de l'étude de cas, dans la mesure où son travail d'enquête sur le terrain, auprès de patients, aurait été susceptible de perturber des patients schizophrènes qui auraient pu stopper leur traitement, ce qui aurait perturbé leur relation aux soignants. Je répète, ça devrait être mis en exergue. Saphir Devine nous explique enfin l'intervention qu'elle a subi une invalidation partielle de son projet de thèse par le comité d'éthique de l'assistance publique hôpitaux de Marseille et donc par sa direction de recherche, par son directeur de thèse. Le comité d'éthique, thèse de santé publique, le comité d'éthique de la PHM a stoppé son étude dans la mesure où son travail d'enquête sur le terrain, in vivo, aurait été susceptible de perturber des patients schizophrènes qui auraient pu stopper leur traitement, ce qui aurait perturbé leur relation aux soignants. Note du rédacteur, blocage typique de son rencontre en France qui a entravé le développement de nos mouvements et organisations. Débat avec les personnes présentes. Alors, docteur Bellassène, sur l'empowerment falsifié, ces concepts sont utilisés comme novlangue dans un sens de neutralisation par le ministère de la Santé, par les instances sanitaires. Comment former un contre-pouvoir ? Et c'est là, c'est toute la question. Il y a une différence fondamentale entre l'empowerment des mouvements destinés à libérer et émanciper des gens de minorité, quoi, qui sont opprimés, et cette même notion est ce qui va avec, utilisée par les dominants. Alors Daphné, une intervenante en licence de médiateur de santé pair, le problème est le suivant, vous devez faire profil bas, lissez votre discours, comme ça vous ferez votre travail. Mais sinon, voilà. Une autre intervenante psychiatrisée, les pratiques novatrices des soignants sont étouffées par les hiérarchies, les pratiques de rétablissement restent théoriques, mais rien ne suit dans les pratiques. Et la personne qui est intervenue est une personne en soins, en prise en charge, mais qui a bossé un temps comme père aidante professionnelle. Hein ? Alors je relis parce que sa phrase est très bien, hein, c'est Aurore. Les pratiques novatrices des soignants sont étouffées par les hiérarchies, les pratiques de rétablissement restent théoriques, mais rien ne suit dans les pratiques. Alors, Madame Sarah Massoud, donc une juge du syndicat de la magistrature qui était là présente, bon, et qui donne son point de vue. Sur le volet pénal dans l'institution judiciaire, la responsabilisation des malades, obligation de soins, la notion d'empowerment, de responsabilisation de soins en quelque sorte, a été développée dans le sens de la responsabilisation des personnes atteintes au plan psychiatrique, donc dans le sens d'une pénalisation accrue, donc d'une déshumanisation accrue avec défaut de soins. Puisque le propre, enfin bon, le système psychiatrique est en faillite de toutes les façons, mais le propre d'une pénalisation, c'est que vous n'avez pas, en étant incarcéré ou post-incarcéré, un suivi digne de ce nom, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas croire, ou très peu. Alors, confère la problématique des expertises psychiatriques avec une chute statistique des déclarations d'irresponsabilité pénale. Là-dessus, c'est pas simple. J'ai vu, d'après des statistiques de la chancellerie, c'est vraiment pas simple parce que, en fait, il y a un volant très important d'irresponsabilité pénale présententielle, avant jugement, avant même quoi que ce soit, dans le classement sans suite. Mais bon, c'est une autre paire de manches. Le temps d'audience des contrôles juges des libertés de détention des hospitalisations sans consentement, le principe du contradictoire, le dossier médical, l'avis médical est dominant. Or, le rôle du magistrat, c'est de trancher. Qu'en pouvez-vous penser ? Étant donné qu'ils abattent, c'est une justice d'abattage. Hein. On nous décrit les conditions de travail à la juridiction de Bobigny, c'est complètement invraisemblable. Donc on livre, alors elle qui est une juge, on livre des déclarations violentes à des internés qui ne font pas le poids et qui n'ont pas l'égalité des armes au sens juridique du terme. Il y a un lâcher-prise. Les psychiatrisés se livrent et disent des choses qu'ils ne diront pas ouvertement. Elles s'efforcent d'acter ce que dit le patient dans l'ordonnance judiciaire. Ce qui est quand même la moindre des choses. Hein. Alors, le huis clos, ça interroge quand on voit le film d'Oujour. Dans le film d'Oujour, on voit les patients qui comparaissent en audience JLD avec deux personnels infirmiers baraqués derrière qui viennent du service où ils sont. Donc, comment peuvent-ils parler? Et s'ils disent quoi que ce soit, c'est reporté. Tu vois? Donc, les représailles. Et même s'ils arrivent à se défendre, ne serait-ce qu'un patient, une patiente qui arrive à se défendre correctement, il sort, il est réintégré, les deux personnes qui sont là, transcrivent, font état des déclarations du patient, les représailles tombent.
Oui, oui.
Oh, mais tu vois, donc le huis clos, alors Madame Massoud n'y tient pas, hein. D'ailleurs, bon, la publicité des débats est un principe fondamental qui garantit un contrôle extérieur, mais un contrôle extérieur. Le contre-exemple étant ce qu'on peut voir précisément dans le film d'Oujour. Des internés comparaissent devant le JLD avec deux infirmiers accompagnateurs provenant du service d'où les personnes hospitalisées sans consentement sont extraites et qui surveillent les déclarations des patients. Alors sur le contrôle JLD proche de l'admission, elle aurait préféré cela, non pas un contrôle avant d'Oujour, mais un contrôle proche, selon elle, plutôt que la date de 12 jours. Oui. Alors j'ai rappelé ou appris aux personnes présentes que ce délai de 12 jours avait été adopté sur un amendement de la ministre de la Santé, Mme Touraine, en séance à l'Assemblée nationale le 25 juillet 2013. Son argument, l'argument de la ministre, avait été d'unifier le délai avant lequel le JLD doit statuer sur une mesure de soins sans consentement avec celui de la saisine facultative de ce juge par l'intéressé ou par des proches. Parce qu'il y a une différence entre le contrôle obligatoire, le contrôle sur saisine, par l'intéressé ou par des proches, qu'on appelle le contrôle facultatif. Ce délai de 12 jours dans les saisines facultatives des intéressés et des proches provenait d'un décret du 20 mai 2010, qui avait préfiguré la judiciarisation. Alors, Aurore, toujours, les observations médicales, lorsqu'on est interné, qu'on passe au juge des libertés, les patients n'y accèdent pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les avocats y accèdent, sinon c'est la modalité habituelle. Alors, une ex-pair aidante travaillant en libéral, le CLSM d'Argenteuil-Beson, 95, le coordinateur a une volonté de donner la parole aux usagers en santé mentale, ces éléments sont nouveaux. Et là, ça fait apparaître que ça dépend des conseils locaux de santé mentale, de qui est coordinateur, de quelle latitude le coordinateur a, et de la volonté sur l'établissement ou sur de la direction de l'établissement du coin d'ouvrir la porte à la parole des usagers. Donc, Dr Tinland, comme psychiatre-chercheur à la PHM, ces mobilisations commencent à payer. Il y a un changement, et c'est en lien avec la professionnalisation des usagers de la psychiatrie. Les groupes d'entraide, la vieille expérience des groupes d'entraide mutuelle, hein, qui aussi, ça fait désormais pas mal de temps, 2005, l'officialisation, le déploiement date des années 2000, du début des années 2000. Alors, l'Internet a permis une libération de la parole des personnes psychiatrisées. Voir les pages Facebook, les forums, les différents sites internet qui ont vu le jour, souvent tenus par des personnes concernées, par les prises en charge psychiatriques ou par l'internement. La condamnation en 2018 par la cour d'assises du Bas-Rhin, du docteur Alain Pidol, psychiatre qui était médecin-chef, à 13 ans de prison ferme pour viol et violences sexuelles sur certaines de ses patientes, dont une mineure, c'est une première. Une condamnation aussi lourde en cour d'assises d'un psychiatre hospitalier responsable, hein, chef et ancien président de CONF, c'est vraiment une première. Alors, il est rétorqué, il est répliqué dans la salle que ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Bon. Alors, une intervenante ex-pérédante professionnelle et travaillant en libéral, des usagers devraient être co-décideurs ou concertés, tout au moins auprès des décideurs financiers. Voilà, ça c'est toujours ce problème qui revient là, qu'il y ait une co-décision, une participation à la décision sur l'octroi de fonds publics. Alors, Mathieu Bellassen, psychiatre, il faudrait faire intervenir les gens de l'AGIDE du Québec, l'association qui regroupe les comités de défense des personnes psychiatrisées au Québec. Le réseau d'observateurs est financé par l'État. Le 15 mai est d'ailleurs leur jour anniversaire de gains judiciaires. Ah bah pour moi aussi, hein. Le 15 mai est une date anniversaire pour un mieux-être et une reconnaissance en le 15 mai 95, en fait le 19 mai, de ma qualité de victime en la matière.
D'accord.
Donc pour moi aussi, c'est une date anniversaire. Une pair aidante, le premier jour de la licence de médiateur santé pair, il est nécessaire de faire profil bas et ne rien dire. Ben c'est pas que le premier jour, c'est tout au long du cursus. Et après tout au long de la carrière, mais bon... Il y a l'ascenseur et il y a le descenseur. Bon. Une prise de pouvoir sur ce terrain des formations, c'est pas critiquable d'ailleurs, c'est normal, par certains soignants qui orientent leur carrière vers les thérapies orientées rétablissement, la licence de médiateur santé père qui a été mise en place en 2012, la première c'était en 2011-2012, hein, qui est distincte du diplôme universitaire de père aidant professionnalisé, alors là, bien, est très lisse. Alors les médiateurs santé père, ils sont pré-embauchés sur les sites. Bien. Et leur formation est payée bien, par l'établissement qu'ils embauchent. D'accord. Tandis que pour le diplôme universitaire de père aidant, c'est les intéressés qui payent. Ah, ou oui. Alors c'est la formation permanente et ça peut être financé également par Pôle emploi, par le biais de Pôle emploi. Mais bon, quand même, c'est, pour les médiateurs de santé père, il y a une pré-embauche. Donc on ne peut pas mettre, enfin moi de toutes les façons par rapport à ces problèmes, j'aurais 20 ou 30 ans de moins, je refuserais tout de go de travailler dans les machins pareils. Hein, bon. De toutes les façons que ce soit clair. Hein. Je vois pas où je mettrais la main à la pâte dans des trucs pareils. Hein. Mais bon, il ne reste pas moins que certains pères aidants font des choses très utiles. Hein. Il y a des choix, voilà. On ne peut pas mettre en œuvre... Alors, le constat, c'est que la licence de médiateur de santé père est très lisse. Et qu'en pratique, on ne peut pas mettre en œuvre le rétablissement. Eh oui. Et que là, ça dépend dans quel service on tombe. Donc, si des déclarations d'intention sont en place, au plan institutionnel, elles ne trouvent pas leur traduction dans les pratiques. C'est toujours le même problème en France. Je fais donc état, là-dessus, du premier colloque institutionnel de la FNEPSI le 25 février 2000, ça ne nous rajeunit pas, mais bon, ça ne fait rien, dans la salle de conférence du ministère de la Santé, la salle Larocque, la principale salle très officielle, avec 200 places, bon. Dans l'ensemble, les déclarations des personnes en tribune étaient lissées et consensuelles. Une délégation du GIA était présente dans l'assistance. On était 7 à 8 personnes, des perturbateurs paranoïaques évidemment. J'avais émis une liste de revendications de base, j'avais été applaudi, mais mis de côté avec mes camarades parce que perturbé, perturbateur. T'étais pas là, ce colloque, le 25 février 2000 ?
Alors, j'en suis venu à certains, pas à tous.
T'as raté ce premier.
Oui.
T'as raté ce premier, hein, parce que c'est pour de bon. Hein. On voyait là l'officialisation. Hein. Alors, Madame Sarah Massoud, magistrate, mais enfin, il faut retenir que nous qui avons des propositions concrètes, perturbé, perturbateur, mis de côté. Paf. Bon, voilà. Enfin, bon, peut-être parfois c'est mieux, hein. D'être mis de côté. Hein. Alors, Madame Massoud juge deux réflexions au niveau judiciaire. Notion de responsabilisation avec tout le volet pénal. Pan majoritaire dans l'institution judiciaire. Responsabilisation des patients qui va de pair avec la criminalisation de la maladie mentale. Tout ce qui est fait majoritairement au pénal, vernis judiciaire, cette notion d'empowerment a été happée par le courant de pénalisation des faits et gestes des patients.
Oui, il est responsable de tout, en fait.
On est responsable
isolement,
de tout.
Isolement, contention, camisole chimique, il est même responsable de ça.
C'est pas ça, c'est qu'en cas de délit, je ne parle pas de crime, de délit,
oui, oui.
Alors les magistrats, sachant qu'il y a pathologie mentale, ont tendance à durcir les sanctions, carrément. Alors qu'en fait, enfin bon, c'est assez compliqué. Donc la question de la détresse humaine, etc., n'est pas questionnée par la magistrature et les magistrats. Il est rassurant de mettre en place une obligation de soins. C'est-à-dire, ils prennent une décision d'obligation de soins, sans savoir d'ailleurs si c'est acté ou pas. Hein. Autre manière de normaliser, penchant sécuritaire, responsabilisation des gens pour renforcer les axes de contrainte sur la personne concernée.
Oui. Bon.
Le temps, bon, ça peut être tout à fait nécessaire, c'est pas ça, c'est que effectivement, le suivi psy, est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, c'est tout. Hein, ça, c'est... Le temps de l'audience lors des contrôles par les JLD, des hospitalisations sous contrainte, un lieu de parole pour le patient. Donc le principe du contradictoire, on donne à voir le dossier médical avec un avis juridique. Bon, d'accord, donc ça c'était déjà dit, donc ça, je vais supprimer ça, voilà. Donc toujours est-il que dans cette affaire, pour des magistrates, voulant faire un travail juridique et humain par rapport à l'hospitalisation sans consentement, il y a un bras de fer entre les professionnels de la justice et de la psychiatrie.
Mmh.
Voilà. Alors parfois c'est neutralisation et d'autres fois au niveau du syndicat de la magistrature et du SAF, du syndicat des avocats de France, c'est un bras de fer. Donc alors, Alors elle, Madame Massoud, questionne le terme de patient dans ses comparutions, puisque les personnes psychiatrisées sous contrainte qui comparaissent au contrôle JLD des hospitalisations sans consentement sont des justiciables, et des justiciables comme les autres. Donc c'est ici. Alors, pour clore sur l'empowerment des usagers, quand les gens ont vraiment le pouvoir, ils s'investissent. Dans les instances, on demande aux usagers de service, on demande aux usagers de service qui siègent de servir de prétexte. Elles se fatiguent et ne revendiquent plus. D'ailleurs, elles ne sont pas payées. On en est au point que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a lancé ces temps-ci plusieurs appels à candidature pour des fonctions de représentation des usagers dans les commissions des usagers des établissements sanitaires de la région capitale, en faisant état d'un manque évident de candidature. C'est-à-dire qu'il manque même de candidatures. Les personnes mandatées par les associations agréées du système de santé ont eu le temps de constater que leur présence ne servait à rien d'autre que de cautionner les déclarations et les politiques des directions des établissements et d'être instrumentalisées par les uns et les autres sans pouvoir être effectives dans le cadre de leur mandat de représentation des intérêts des patients. Voir les positions défendues par 13 dans son témoignage à charge. Donc vraiment, la question de l'empowerment des usagers pose aussi celle de la neutralisation de cette prise de parole.
Oui.
Fais une pause.
Allez.
De son enfance.
Ah, c'est parti, c'est trop loin. Bon, on écoute Jean Ferrat.
Sans que je puisse m'en défaire, le temps met ses jambes à mon cou. Le temps qui part en marche arrière me fait sauter sur ses genoux. Mes parents, l'été et les vacances, mes frères et sœurs faisant les fous. J'ai dans la bouche l'innocence des confitures du mois d'août. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Les napperons et les ombrelles qu'on ouvrait à l'heure du thé pour rafraîchir les demoiselles roses dans leurs robes d'été. Et moi le nez dans leurs dentelles, je respirais à contre-jour dans le parfum des mirabelles, l'odeur troublante de l'amour. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Le vent violent de l'histoire allait disperser à volo notre jeunesse dérisoire, changer nos rires en sanglots. Amour orange, amour amer, l'image d'un père évanoui qui disparut avec la guerre renaît d'une force inouïe. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Celui qui vient à disparaître, pourquoi l'a-t-on quitté des yeux? On fait un signe à la fenêtre sans savoir que c'est un adieu. Chacun de nous a son histoire et dans notre cœur à l'affût, le va-et-vient de la mémoire ouvre et déchire ce qu'il fut. qu'une guérie de son enfance, de son enfance. Une guérie de son enfance, de son enfance. Belle, cruelle et tendre enfance, aujourd'hui c'est à tes genoux que j'en retrouve l'innocence au fil du temps qui se dénoue. Ouvre tes bras, ouvre ton âme, que j'en savoure en toi le goût. Mon amour frais, mon amour femme, le bonheur d'être et le temps doux. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance.
Oui, alors donc je reprends par rapport aux notes de cette conf débat pour voir sur cette chanson de Jean Ferrat qui porte sur la déportation de son père. Hein. Parce que Jean Ferrat s'appelait Tenenbaum. Il y a eu aussi sur l'adolescence Hervé Bazin hein, qui avait été interné adolescent en psychiatrie au Sésame d'Angers et qui, une fois littérateur à succès, était gros consommateur de femmes. C'était très. Mais ça, c'est les femmes de pouvoir. Alors, je passe sur la deuxième intervention de Mathieu Bellassène sur son livre, sur la contention. Ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a pas, et pour cause, il n'y a pas de statistiques, comment dire, fiables encore sur l'évolution statistique des pratiques d'isolement et de contention depuis la traçabilité, et pour cause, puisque la principale statisticienne chef, Mme Coldefy, a arrêté ses mises en pause pendant deux bonnes années. Elle a repris là, si bien que on est arrivé à la conclusion que, sauf de façon fragmentaire, les principales données chiffrées sont dans les mains de la Commission des citoyens des droits de l'homme, qui, eux, se livrent à des compilations parce qu'ils obtiennent à l'arraché, par du contentieux, les registres d'isolement contention et qu'ils les dépouillent. Et que ça fait un bins pas possible, puisque la conférence des présidents CME, CHS, proteste, etc. Donc, Mme Massoud nous fait savoir, en tant que syndicat de la magistrature, cette fois, que c'est toujours la même question sur les pratiques répressives et les pratiques sur lesquelles l'État pourrait être condamné ou, comment dire, interrogé, hein, et où est polémiqué, les chiffres manquent. Et que le combat sur les données les plus scientifiques, est un véritable combat. Alors ça, c'est à suivre. Alors, je passe sur la troisième intervention de la docteure Tinland, psychiatre-chercheur, sur le COFOR.
Oui.
Le projet donc de centre, enfin le projet, non, la prestation, qui existe maintenant depuis 7 ans, hein, sur le centre de formation rétablissement. Alors, ce projet, à la base, était porté par Mars, le mouvement pour le rétablissement initié par Vincent Girard. Hein, le docteur Vincent Girard, qui a été à la base de la formation du GEM, groupe d'entraide mutuelle à Marseille, des Nomades Célestes.
Oui, c'est ça.
Les Nomades Célestes, oui, oui. Avec notamment DSDF, toxicomanes. Oui, oui. Sur les Nomades Célestes, c'est la reprise d'ailleurs de la thématique de Jacques Kerouac. Jacques Kerouac, donc, mais c'est parce que Vincent Girard a fait ses classes aux USA. Aux USA, il a importé en France des prestations américaines. C'est lui, d'ailleurs, qui a importé en France la question des les pères aidants en santé mentale. Les pères aidants, à la base, c'était au niveau des SDF. Hein. SDF et toxicomanie, hein, donc... Alors, sous la réserve qu'il faut savoir qu'historiquement, Jacques Kerouac était un blanc raciste, assez facho, hein, comme bon, ils étaient bien dans
le... Il faut le rappeler.
Il vaut mieux le rappeler. Donc alors, c'est Céline Le Tailleur, hein, qui est une usagère de la psychiatrie, qui a été à la base du développement du COFOR marseillais. C'est quelqu'un qui avait une formation en sciences de l'éducation et qui a été prise comme stagiaire pour cela, sur ce projet notamment. Elle s'est intégrée dans ce groupe dans le cadre d'un appel à projet qui était financé par l'ARS.
Oui.
Le grand intérêt de Marseille, c'est qu'au niveau de l'Agence régionale de santé, ils étaient pour financer les projets novateurs. Donc, Céline Le Tailleur était en stage à Mars, à l'équipe pour le rétablissement. Donc ils se sont adossés à une structure déjà financée, un centre de formation, la structure Solidarité Réhabilitation, ayant son siège à l'Institut de Travail Social de Marseille. Donc le projet COFOR à la base, c'était une co-construction des personnes concernées elles-mêmes sur le modèle du Recovery College, donc de l'Université du Rétablissement. L'Université du Rétablissement, lieu d'apprentissage du rétablissement, modèle américain en date des années 80, notion de rétablissement, considérer qu'il fallait que ce lieu soit essentiellement composé d'usagers de la psychiatrie avec le moins possible de professionnels. Le lieu de formation étant un lieu neutre, non sanitaire, les personnes stagiaires étant présentes en tant qu'étudiantes. Les étudiants du COFOR font des ateliers qu'ils animent sur leur expertise. Le savoir peut émanciper les personnes, échange sur leur rétablissement. Le COFOR a été porté par des usagers et ex-usagers avec un encadrement de professionnels, mais l'encadrement étant léger, n'étant pas spécialement étouffant. Alors, Saphir Devine dit qu'Aurélie Tillon intervient aujourd'hui qu'elle n'est pas usagère. Donc, ça, c'est parce que, avant qu'on démarre cette conf, il y a une véritable engueulade, parce que c'est une notaire remontée au créneau. Et... enfin, bon, bref. Bon, finalement, c'est une notaire intervient notre prochaine conf, comme ça. Bon, moi j'ai soutenu que je ne suis pas croyant dans le fait que le fait lui-même de faire ou d'avoir fait de la psychiatrie donne une expertise et que les gens doivent faire leurs preuves, hein, quand même. Bon, on acquiert ses galons, hein, quand même. Faut pas, et on fait des efforts, on déploie le sens de l'effort, parce que quand on voit des gens qui disent « moi je suis usagé » qui font aucun effort et qui restent vautrés, ça va pas 5 minutes, hein, quand même. Enfin, si, justement, ça va juste 5 minutes. Donc, à Lille, alors, il y a désormais un COFOR qui a été monté sur Lille et qui marche entièrement sur la base de personnes usagères de la psychiatrie, nous apprend Madame Fanny Mériot. Alors, sont proposés au COFOR des modules de formation. Le programme est financé, des groupes d'usagers ont été formés, la PRI et le contenu des cours ont été discutés en démocratie interne dans un focus group une fois par semaine. Ils sont passés donc d'un petit nombre de personnes à près de 40 personnes. Des modules différents ont été mis en œuvre, dont un module sur les droits des usagers, selon les centres d'intérêt des personnes qui s'impliquent. Alors, bon, là-dessus, ce qu'il faut voir, moi, j'ai fait une formation auprès d'eux, je crois que c'était en 2016-2017, sur la personne de confiance, où j'ai repris un texte, etc. Et ça a été très bien, hein. Franchement, il y avait Pauline Renter, elle était en train de devenir avocate, et dans la salle, il y avait des gens, essentiellement des personnes qui ont connu la psychiatrie, soit patients, soit... et patients, et pères aidants, ou médiateurs de santé pairs. Des échanges avec les gens dans la salle étaient vraiment très intéressants. Il y avait eu 20-30 personnes. Hein. Donc, parmi ces modules, il y a l'entente de voix, l'arrêt de traitement, la parentalité, vivre avec les troubles psychiques, les modalités alternatives, un module bien-être, l'autodéfense physique liée au bien-être. Voilà, c'est des choses tout à fait élémentaires. Hein. D'apprendre à faire avec la maladie, d'apprendre à les traitements, des sevrages éventuels, etc. Donc un cours par semaine sur 12 semaines. Des facilitateurs sont dans l'équipe. Alors, il n'y a pas de validation en fin de cursus. Simplement, si les personnes sont venues à plus de 9 séances sur 12, elles reçoivent une attestation. Tous les lundis, donc, se réunit un groupe de gouvernance du projet qui décide le programme à venir, un focus group. Donc une évaluation par des chercheurs est faite régulièrement de sorte à améliorer la structure. C'est une forme d'éducation populaire ou de formation permanente.
D'accord.
Donc vu l'heure, je propose donc qu'on à une prochaine émission, on développe plus avant.
Oui.
Et puis voilà.
Eh bien, merci André pour ce tour d'horizon de cette conférence débat du 23 mars dernier.
Et 25 mars.
Le 25, pardon. Oui. 25. Et donc, on dit à la semaine prochaine. Salut. Et on retrouve dans quelques instants l'émission Un rayon de soleil de Radio Libertaire Méditerranée.